quand tu connais le rap, vraiment, quand, pas quand t'as débuté, c'est pas un message pour les jeunes, mais quand t'as débuté dernièrement, quand ça fait 5 ans que t'écoutes du rap sur Spotify, et que tu critiques les flammes, et ben au final, moi je vais te dire un truc, quand tu vois Mac Taylor de Tandem faire le morceau 93 hardcore à la télé, terminé.
Ouais.
On a gagné.
Ouais.
À la télé, dans un événement produit par Bouscapé. Bouscapé, quelque chose qui a été inventé au fin fond du 91.
Oyez la popu, ça fait longtemps. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Artisan de l'Esprit. Ça fait un bail et franchement, ça m'a manqué. Bref, tu viens d'entendre Alexis Onestas, fondateur de Omax Capital. Depuis tout petit, c'est le rap qu'il berce. Il grandit à Épinay-sur-Seine dans le 93. À 17 ans, il sonne au culot chez Boostaflex pour lancer son premier fanzine. Aujourd'hui, c'est un serial entrepreneur et professeur d'économie numérique à la Sorbonne. Dans cet épisode, on parle de l'environnement dans lequel il a grandi, de sa remise en question par rapport à ses origines ou encore de son avis lié au premier événement Les Flammes et les critiques qu'ils ont essuyées. Sans plus tarder, on commence avec la fameuse question « Comment va ton cœur ?» N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan de l'Esprit.
Waouh, comment va mon cœur ? Mon cœur est à la fois apaisé et excité. Apaisé parce que tout va bien, en réalité. Et excité parce que le futur s'annonce radieux.
Et voilà, c'est ce qu'on verra jusqu'à la fin de ce podcast. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si ça a un petit peu changé, tu as la tête de Omax Capital. En gros, c'est une structure qui regroupe plusieurs sociétés que tu as créées.
C'est ça.
Notamment Qd, Statistics, Omaximum. On y reviendra sur Omaximum.
Yes.
Environnement, Agence 88, Campus Digital, Omaxbook, Hublot. Et tu es aussi prof d'économie, c'est toujours le cas?
Exactement. Économie numérique.
Économie numérique à la Sorbonne.
C'est ça.
Pour comprendre comment et pourquoi tu en es arrivé là, pour moi, il est important de comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier?
Ouais, bien sûr. De toute façon, ma jeunesse, elle est entièrement liée au quartier. Parce qu'en plus, du fait d'avoir grandi là, moi, je viens d'une époque où, en fait, on était beaucoup moins ouvert sur le monde qu'aujourd'hui. Donc quand tu venais du 93, t'étais pas quelqu'un qui venait du 95. C'est aussi proche que ça, hein, c'est-à-dire deux stations de RER. Mais quand tu venais du 93, tu venais pas du 95, et quand tu venais du 95, tu venais pas du 94. On n'avait pas les mêmes références, on n'avait pas les mêmes vêtements, on n'écoutait pas la même musique, on n'avait pas les mêmes grands. Et donc intrinsèquement, mon quartier fait partie de moi et de mon éducation. Donc moi, je viens d'Épinay-sur-Seine, une ville à côté de Saint-Denis. Et que te dire de plus à propos d'Épinay-sur-Seine, c'était une ville assez cool. Il y avait beaucoup d'autres villes un peu moins bien loties dans le 93. Mais on fait quand même partie de ce qu'on appelle le département le plus pauvre de France. Ça c'est un constat. Et donc j'ai grandi là, mais moi j'ai toujours pris conscience que j'avais de la chance par rapport à mes amis. Et quand on me dit est-ce que tu trouves que t'as de la chance par rapport à ton parcours, j'ai pas de chance par rapport à mon parcours parce que j'ai travaillé et je suis fier du travail et de tous les sacrifices que j'ai pu faire. Par contre, j'ai énormément de chance par rapport à l'être humain que je suis.
Ok.
Je suis un être humain qui est le dernier de la famille. Donc on sait tous les avantages que ça peut, le petit chouchou, le dernier. J'ai deux grands frères qui étaient très très connectés à la culture, donc ils m'ont fait découvrir plein de choses. J'ai écouté pour parler de musique, hein, parce que c'est central dans ma vie, j'ai écouté des titres que les jeunes de mon âge n'écoutaient pas. Autant au niveau du rap, j'ai eu la chance de découvrir plein de choses avant plein de gens, grâce à mes deux grands frères. Et autant même, mon grand frère étant guitariste, j'ai pu écouter du Lenny Kravitz, du Prince, des choses comme ça, à l'époque où vraiment c'était pas courant. Et mon quartier, pour revenir à ta question, j'ai eu la chance, pour revenir à ça aussi, d'avoir deux parents aimants, deux parents qui travaillaient, Je précise ça parce que c'était pas très courant fait à l'époque. J'ai eu la chance d'être ouvert à plein de choses et donc j'ai eu la chance d'être lié à mon quartier, mais en même temps de pouvoir sortir très souvent du quartier.
Ok.
Tu vois, moi je viens de Marie-Galante,
ouais,
une île qui fait partie de l'archipel de la Guadeloupe, et donc on allait à Marie-Galante aussi. Donc tu vois, prendre l'avion, ouais, partir en vacances, ne pas passer l'été à la cité,
voir ça, la plage,
voilà, exactement, voir la plage, voir la mer,
ouais,
ça c'est des choses. Fab avait une chanson là-dessus où il rêvait d'aller à la mer, je sais pas si tu te rends compte du truc, toi, ouais, tu vois. Et Fab, un rappeur pour les plus jeunes, un rappeur très 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 à écouter et à découvrir. Et donc voilà, et donc lié au quartier, mais avec un œil ouvert sur le monde, sur Paris, sur plein de choses.
Ouais. C'est quoi ton un de tes premiers souvenirs étant jeune?
Au quartier spécifiquement?
Ouais.
Un de mes premiers souvenirs étant jeune.
Un truc qui vraiment te définit toi, mais définit aussi ton quartier, tu vois?
Ben en fait, c'était pas forcément c'est pas mon premier souvenir, mais quand même, je peux pas passer à côté de ça par rapport à notre quartier, par rapport à notre ville. C'est Bustaflex.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vois, on venait d'Épinay, qui est du 93, donc on criait 9-3 à chaque fois qu'on pouvait crier 9-3, mais la grande ville, c'était Saint-Denis. Tu vois, c'était de là d'où venait NTM, c'était la plus grande ville du 93, tu vois. Et quand l'un de nous a pu réussir à commencer à passer à la radio, à faire des freestyles, à amener le nom de la ville à un niveau national, et faire en sorte que Épinay soit reconnu, là, on a tous pris, tu vois, il y avait Bustaflex, il y avait Didier Scalp, qu'on a commencé à découvrir Didier Scalp en dehors de... C'était quelqu'un qui habitait quasiment dans ma rue, tu vois.
Ouais.
Et quand tu commences à le voir à la télé, via Ryan B. Fever, quand tu commences à voir sur les choses Polo, tu vois, c'était vraiment ça. Ouais. C'était pas des souvenirs précis par rapport au quartier, parce qu'en réalité, il se passait pas grand-chose dans les années 80-90 en banlieue française. Non, la vraie chose, c'est quand quelqu'un de la ville réussissait à faire en sorte que la ville soit symbolisée, représentée ailleurs. Ouais. Et ça, quand ça se passait, quand on ouvrait l'affiche, les magazines RER, l'affiche, etc., et qu'on voyait Bustaflex, Polo, Didier Scalp ou d'autres, c'était incroyable.
Ouais. Là, c'était les moments les plus forts où j'imagine t'as pu t'identifier réellement, tu vois. Tu t'es identifié par rapport au milieu du rap, mais est-ce que il y avait aussi autre chose auprès de qui t'as pu t'identifier ou une autre personne auprès de qui t'as pu t'identifier au-delà du rap?
Non. Non, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans un contexte. On est dans les années 80-90. Il n'y a pas Internet. La télévision est un objet sacré. L'écran, le carré magique. Et on n'existe pas. C'est-à-dire, pour parler concrètement, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, toutes les autres communautés non blanches qui sont en France et qui sont en France dues à l'immigration, dues aux différentes vagues d'immigration, les Portugais, etc. et tout. On n'existe pas.
Ouais.
À la télé, on n'existe pas. En fait, à la radio, on n'existe pas. Et il y a deux exemples que je cite à peu près régulièrement parce que c'est les deux personnes à laquelle on pouvait s'identifier. Il y avait Yannick Noah, mais il faisait du tennis, donc c'était loin de nous, c'était loin de nos considérations. Ah ouais, vraiment, sincèrement. Et il y avait Joey Starr.
Ouais.
Et en plus de ça, Joey Starr venait du 93, alors là, on a plongé dedans. Mais hormis ça, en fait, il y avait personne. Et il n'y avait pas d'exemple en politique. Obama est arrivé des années plus tard. Il n'y avait pas d'exemple à la télévision. Il y avait pas, ou alors à chaque fois, c'était clownesque.
Ouais.
Et encore une fois, c'était pas, j'ai rien contre ces personnes-là qui ont profité d'une brèche et qui ont eu raison d'y aller parce qu'il y avait tellement peu de choix. Mais, tu vois, c'était Magloire, c'était Giant Cuckoo.
Ouais.
C'était, tu vois, c'était que des personnages, particuliers auxquels on pouvait pas s'identifier.
Oui, et puis il y avait pas réellement de prise au sérieux comme tu as dit, et donc ça nous confortait dans le fait de se dire bon bah c'est pas pour nous en réalité.
Exactement. Et donc en fait, il y avait pas d'écrivain que tu voyais, enfin il y en avait hein, mais en fait, comme les seuls médias étaient contrôlés, il y avait pas la liberté qu'Internet aujourd'hui nous procure. Bah en réalité, il y en avait pas. Donc quand on en voyait un, on fonçait dedans, mais c'était notre idole quoi.
Ça me rappelle un terme que j'ai connu il y a quelques temps qui s'appelle épistémicide.
OK, explique-moi.
Et en fait, ça veut dire la mort d'une histoire.
D'accord.
Tu vois, donc ou alors sous-entendu, on déforme un peu suffisamment l'histoire pour te faire comprendre que ça n'a jamais existé ou que ce ne sera jamais possible.
Ouais.
Et donc le fait de se dire, tu parlais d'écrivains juste avant, il y en a eu, mais bien le sûr. Fait qu'on ne soit pas au courant étant jeune, et ben automatiquement on se dit ben c'est pas pour nous, ça va être trop compliqué de de prendre cette voie-là.
Et en plus, juste pour rajouter quelque chose, parce que c'est important de le préciser, nous, il faut savoir que la jeunesse des années 80 qui a grandi en banlieue et qui était originaire d'autres contrées, je dis contrées parce que ça, comment dire, à la fois les Caraïbes, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, etc., etc., l'Asie, voilà. En fait, il y avait aussi une sorte de honte à se rapprocher de ses racines, parce que quand tu le faisais, bah t'étais un blédard, t'étais tu vois vraiment ce côté-là. Et donc, on aurait pu, on avait des exemples en réalité, parce que nos parents écoutaient de la musique, il y avait des grands groupes comme Kassav, qui faisaient déjà, pour les Antilles en tout cas, ce qui me concerne, qui faisaient déjà des tournées mondiales, qui étaient déjà connus en Afrique, déjà connus dans le monde entier, mais c'était le truc de nos parents. Donc tu vois, quand t'es adolescent, t'as pas envie de te rapprocher de la musique de tes parents, t'as pas envie de danser avec tes parents dans, dans les mariages, tu galères dans les mariages en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc moi c'est très très tard que je me suis reconnecté à tout ça, et donc en fait ce qui nous parlait, ben, c'était le rap, parce qu'on se reconnaissait dans ces gens-là.
Et il était comment Alexis à l'école, en sachant tout ce que tu viens de me dire?
Alexis à l'école, Alexis il a compris quelque chose très vite, c'est que l'école c'était pas l'intégralité de son monde, qu'il y avait une vie après l'école, mais que par contre il fallait assurer ça. Voilà, parce que déjà j'avais deux grands frères qui avaient assuré ça, donc j'avais aucune raison de ne pas faire comme eux, tu vois. Et surtout en fait comment dire, je savais que c'était important et que plus et que enfin voilà, il fallait pas que ça me cause des problèmes. J'avais tellement envie de faire des choses dans ma vie, j'avais tellement envie de construire des trucs, j'avais tellement envie de partir, j'avais tellement envie de voir Paris, qu'il fallait pas que ma mère me dise ouais mais là t'iras pas là parce que t'as pas eu une bonne note. Il fallait pas que ça soit un débat en fait. C'était pas quelque chose qui me passionnait, tu vois, loin de là, mais il fallait pas que ça soit quelque chose qui pèse sur moi et sur mes décisions. Donc j'ai assuré l'école pour m'en débarrasser.
Ok, donc t'as vraiment cultivé une exigence à ce niveau.
Ouais, vraiment.
Vraiment pas par plaisir, mais vraiment par nécessité.
Parce que je vois, tu vois, je voyais les profs, je voyais mes potes qui avaient des problèmes, qui travaillaient pas à l'école pour X raisons, ou qui avaient des problèmes de comportement pour X raisons. Parfois pour des raisons concrètes, parfois pour des raisons de flemme. Et en fait, je voyais la manière dont les parents devaient venir à l'école, dont les profs, comment ils s'embrouillaient avec les profs, la manière dont après il fallait ramener des signatures. Moi, j'avais pas envie de gérer tout ça. J'avais juste envie de venir, de faire mon temps et de partir, parce que j'avais, tu vois, le soir, je rentrais, j'avais des albums à écouter, j'avais des magazines à lire, j'avais des choses à faire, j'avais des concerts à aller voir. Et en fait, l'école, c'était juste, je devais y aller, j'étais obligé. Donc, fais ce que t'as à faire, assure. Parce qu'après, la vie, elle est belle, quoi. À partir de 16h, 17h, c'était magique, quoi. Une fois que t'avais fini. Donc, autant finir. Autant faire tes devoirs. Comme ça, c'est fait. Et après, même si tu rentres tard, tes devoirs, tu les as faits. Donc, en vérité, t'as assuré. Voilà.
Intéressant. Ça veut dire qu'en fait, t'avais déjà une petite idée de ce que tu voulais faire, en réalité.
Oui. Ah non, mais alors, on est passé un peu rapidement là-dessus, mais moi, j'ai été traumatisé. C'est-à-dire que... Je sais pas si c'était une question, désolé si je grille une question pour
plus tard. Non, non, vas-y.
Mais quand je te dis que j'avais déjà quelque chose à faire, c'est que moi, j'ai eu, comme je te dis, j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères à la maison et qui m'ont, on a 5 et 7 ans de différence. Donc, ils auraient pu ne pas me calculer.
Ouais.
Tu vois, parce qu'il y a vraiment un âge quand t'as 10 ans et que tes frères, ils ont 15 et 17 ans.
Ouais,
voilà. Mais ils ont, voilà, tu vois.
C'est la même chose.
Mais ils ont vraiment pris le temps de m'apprendre des choses. Et un soir, ils me réveillent pour regarder Rapline. Donc Rapline, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui passait des clips de rap américain. Et comme ils ont commencé à passer du clip de rap français, ils produisaient des clips de rap français. Donc c'est là où on a pu découvrir NTM, IAM, Solar, etc. Et un soir, je vois le clip de NTM et ils ont tourné le clip juste à côté de chez ma tante, à Saint-Denis. Et encore une fois, remettons les choses dans un contexte avec l'importance de la télévision. Et pour la première fois de ma vie, je vois des gens qui me ressemblent, qui habitent à côté de chez moi, en tout cas qui font quelque chose, parce que je connais pas. Je connais pas le rap, je sais pas ce qu'ils font en fait. Qui dansent, qui rappent, qui chantent, qui tout ça, à côté de chez moi. Et en fait, ce jour-là, j'ai dit, OK, je veux faire ça. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas tout ça, mais je veux faire ça. Mmh. Et à partir de ce jour-là, ma vie a été guidée par le hip-hop de manière générale.
Parce que à ce moment précis, dans les années 90, le mouvement hip-hop arrive en France.
Ouais.
Et met une gifle à vraiment beaucoup de monde.
Clairement.
Et j'ai l'impression que t'es une des, tu fais partie du faible pourcentage des gens qui ont tenu ça. Mmh. Jusqu'au bout pour réaliser leur rêve en réalité.
Ah ouais,
tu vois.
Mais parce qu'on n'avait rien d'autre. J'aurais pu être champion de ski, champion de tennis, peut-être que j'aurais pu être mathématicien, mais on n'avait pas ça.
Ouais.
On n'avait pas de cours de maths, on n'avait pas l'occasion d'aller faire du cheval, on n'a pas ça. Donc en fait, la seule chose qu'on a, c'est ça en fait.
Il y a un truc que tu dis souvent, c'est qu'on n'avait pas le choix.
Ouais.
C'est là où, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans le sens où... Quand tu dis on n'avait pas le choix, ce que j'entends, c'était la seule chose qu'on nous proposait auprès de qui je pouvais m'identifier, ce que tu viens de dire. Alors que il y a beaucoup de gens qui avaient la même vocation que toi, la même envie, mais peut-être par peur ou par pour d'autres raisons, ne sont pas partis au bout. Donc c'est en quelque sorte c'est un choix aussi.
C'est le choix de ne pas partir au bout, de pas aller au bout.
Oui,
mais il y a aussi les axes. Il y a aussi la vie.
Bien sûr.
C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte après. Et en plus, en ce moment, je lis un bouquin qui s'appelle Tous Winners. Mm-hmm. J'ai pas le nom de l'auteur, mais c'est un auteur très connu et n'hésitez pas à lire ce bouquin qui t'explique, en fait, les caractéristiques qui font de certains ou pas un génie. Mm-hmm. Tu vois? Et ce qu'il y a, c'est, en fait, ce ne sont pas les caractéristiques spécifiques que l'on connaît, le QI, etc., l'éducation, quoi. C'est les circonstances. Okay. Moi, j'ai pu aller au bout. Parce que les circonstances m'ont laissé le choix d'aller au bout. Parce que j'ai pas eu d'accident de la vie. Parce que mes parents n'ont pas eu d'accident au niveau, par exemple, de leur boulot. Mes parents ont toujours travaillé, jusqu'à ce que moi je travaille, tu vois. J'ai pas dû aller chercher de l'argent pour faire vivre des petits frères qui étaient derrière moi. Je suis le dernier. J'ai eu deux grands frères ultra connectés à la culture qui ont eu la chance d'avoir un parcours qui ne les a pas amenés vers la prison, vers autre chose. J'ai pas, tu vois, c'est ça aussi quand je te dis que d'autres n'ont pas, tu vois, c'est moi je sais que même si je viens d'un endroit compliqué, j'ai eu les circonstances qui m'ont permis de développer ma passion et mon goût pour le travail. Okay. C'est ça, tu vois, aujourd'hui je suis très 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 indulgent par rapport à ça et par rapport aux ceux qui à ceux qui ne peuvent pas pour des vraies raisons, parce que parfois t'as des vraies raisons de pas aller au bout.
Ouais. Donc, à ne pas confondre avec la chance. Il y a les circonstances.
C'est ça.
Mais la chance, en vrai, elle est toujours minime. Et pour moi, la chance, c'est parce que t'as agi en attendant tout le temps, et puis t'as saisi l'occasion.
Exactement.
Ok. On va avancer un peu dans le temps. Moment fort, on en a parlé souvent, mais pour moi, fanzine.
Ouais.
C'est la première fois que t'entreprends.
Ouais.
Pour moi, c'est aussi, de ce que j'ai compris, c'est aussi la première fois que tu vas vraiment au culot. Parce que quand tu vas toquer chez Mustapha, alors que tu le connais pas et te connais pas, et tu lui proposes de descendre pour une interview, moi personnellement, j'aurais réfléchi peut-être 20 fois avant de le faire, et peut-être que en bas de chez lui, j'aurais fait demi-tour, tu vois.
Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que toi, encore une fois, tu vas au bout du truc, quoi? Est-ce que tu réfléchis ou pas du tout, tu vois?
En fait, le jour où je fais ça, j'ai encore le sourire, tu vois, pendant que tu t'en parles, tu vois, ça s'entend même, je pense. Le jour où je fais ça, il faut que je le fasse, ce magazine. Déjà, le premier, faut se rendre compte de quelque chose, c'est que ce magazine, le premier numéro, c'est un magazine spécial Épinay. Donc, au-delà de l'aspect entrepreneuriat, faut que j'y aille au bout, faut que je fasse mes choses, il y a aussi l'aspect quartier. Faut toujours revenir à un contexte. Et là, en fait, au moment où je fais Bustaflex, j'ai déjà fait les interviews de tous les mecs de mon quartier, voire d'autres quartiers de la ville. Donc, je peux pas ne pas sortir ce magazine. Parce que j'ai appelé tout le monde pour dire, les gars, je fais un magazine. Je suis au max, je fais un magazine. Okay. Tu vois enfin ce que je veux dire. Et donc, il y a aussi l'aspect quartier où tu ne peux pas ne pas aller au bout par fierté. Tu peux pas ne pas aller au bout de ce que t'as promis à tout le monde. Tu vois, tu peux pas dire, je vais représenter la ville avec ce magazine. J'ai interviewé tout le monde et ne pas aller au bout. Donc, quand en fait, je vais voir Bustaflex pour avoir la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire interviewer la personne la plus connue du, de notre ville pour le mettre en couverture, bah en réalité, je vais au bout parce que je dois aller au bout. Mmh. Tu vois, parce que sinon, c'est compliqué, tu vois. Et donc, non, je réfléchis pas. À partir du moment où j'ai son adresse, je sais même pas s'il est là au moment où j'y vais, ouais. Tu vois, parce qu'il faut vraiment, il y a pas de téléphone, il y a rien, tu vois. Donc, tu vas, tu sonnes, et puis basta, quoi.
Et encore, c'était à l'époque où il y avait des interphones.
Ouais. Ouais, exactement.
Parce que d'habitude, tu cries en bas, tu vois.
Exactement.
Ok, et il y a aussi le moment où justement tu sors ton magazine, mmh. et tu fais un truc pour moi qui est vraiment stylé et incroyable, c'est que tu prends une table, tu te poses au quartier, mmh. t'affiches et tu mets un slogan, je crois, je sais plus c'est quoi le slogan, non?
Ah, au maximum, c'était le fanzine hip-hop format de poche pour ceux qui galèrent dans les tests.
Ah ouais.
Et c'est pour ça, en fait, c'était pour ça que j'avais décidé de le faire en A5.
Ouais.
Parce que ça tenait dans une poche de trucs, mmh. tu vois. Moi, les magazines que j'avais, j'avais toujours un magazine sur moi. Toujours l'affiche RER, toujours, tu mmh. vois. C'est toujours en train de lire un truc. Et c'était un peu gênant parce qu'il fallait le mettre dans une poche. Et tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore les sacoches. Ouais, là, maintenant, ouais. Je vois tous les petits jeunes, ils ont des sacoches. Et donc, tu vois, on n'avait pas des sacoches Vuitton, nous, loin de là. On a juste des sacs à dos. Et comme j'avais toujours envie de le lire, bah, c'était un peu gênant de le mettre mmh. dans ma poche. Donc, je me suis dit que moi, le jour où j'allais faire un magazine, ça allait être un magazine A5. Donc, une feuille A4 pliée en deux. Comme ça, au moins, tu peux le mettre dans ta poche, tu peux le passer à ton pote, ça mmh. peut rester dans ta poche arrière de jean et t'en as rien à faire.
Super ergonomique, en plus.
Exactement.
Tu viens, tu te poses, et je crois que tu demandes aux gens de te donner ce qu'ils veulent, en fait.
Ouais.
Tu vois? Donc là, encore une fois, c'est la passion qui parle. Tu le fais pas pour l'argent.
Ah non, loin de là.
Mais t'attends quoi derrière ça, en fait? Quand tu fais ton premier magazine comme ça, tu te poses.
Contexte. Tu peux rien attendre. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tu vois, tu vas mettre le moindre morceau, que tu t'as enregistré sur Spotify, sur une plateforme, tu vas mettre sur YouTube. On va te parler de monétisation.
Ouais.
T'as pas encore un follower, t'as pas encore personne qui t'a... Voilà, ouais. On va parler de monétisation. Moi, à l'époque, le rap, la danse, le tag, tout ce que j'ai pu faire là-dedans, t'as aucune connaissance d'entrepreneuriat. Et surtout, personne n'a gagné de l'argent là-dedans.
Mmh.
Tu vois, personne n'a gagné de l'argent à l'époque, hein, en ouais. faisant un fanzine, en faisant un média. Il y a pas encore Internet, il y a pas encore Bouscapé, il y a pas encore tout ça, mmh. tu vois. Donc, en fait, tu fais juste pour le kiff. Et parce qu'en fait, tu fais partie d'une culture où tu ne peux pas ne rien faire. À l'époque, les consommateurs de rap n'existent pas.
Mmh.
Il n'y a pas de, enfin, en tout cas, ils sont très rares, les personnes qui sont dans la culture hip-hop et qui ne font rien.
Ouais.
Tout le monde fait quelque chose. Soit t'es tagueur, soit t'es danseur, soit t'es, et même quand tu danses pas, ben t'es le manager un peu d'un truc de danse, t'as toujours un cousin qui fait un truc, mais personne ne fait rien. Et même quand t'es le pote d'un rappeur, t'es le pote d'un quelqu'un, tu vois. Et donc, moi, je fais un fanzine pour faire un fanzine, pour la culture. Vraiment, pour le coup, vraiment. Il y avait aucune attente par rapport à ça. Et même, comment j'aurais pu avoir un plan d'attente.
C'est ça, en fait.
Par rapport à des feuilles à quatre photocopiées, agrafées. Il y avait, qu'est-ce que tu voulais, tu vois, même, ah oui. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie encore les fous, parce qu'ils étaient fous. Ils voyaient la fougue d'un jeune qui avait envie. Mais je remercie les personnes qui ont pris de la pub dans ce fanzine, si tu te rends compte.
Ouais.
C'était n'importe quoi.
Comme quoi, ils croyaient vraiment en toi.
Ah oui, non, mais oui. Et de toute façon, ils me l'ont dit après plus tard. Ils savaient très bien que je mentais, tu sais, je leur disais des trucs, ah, j'en sors, tu vois, je me pose, j'en sors 10 000 exemplaires, non, ils savaient très bien, ils voulaient juste donner la force à un petit qui avait la dalle.
T'étais parti voir qui, par exemple?
Ah bah non, mais je peux te les citer. Déjà, il y a Kojo de Nouvelle Donne, mmh. qui avait pris de la pub dedans, donc Nouvelle Donne, le label de This is La Peste, etc. Il y avait Juliette Fievé, qui à l'époque travaillait chez Next Music, mmh. qui m'avait pris de la pub dans le fanzine. Il y avait Mickaël de Justco, qui est devenu plus tard Starco, le magasin de vêtements qui m'avait pris de la pub. Il y avait Sully, Royal Wear,
ah oui,
qui m'avait mis de la pub là-dedans. Non, mais tu vois, moi, je peux te citer parce que c'était des gens. Je sais pas, tu te rends compte d'un jeune de, allez, 16, 18 ans, à qui tu donnes de l'argent
ouais.
pour mettre une pub de produits que lui-même aurait acheté.
Mais c'est ça. Et en plus, c'est à cette époque, c'est des vrais modèles. C'est-à-dire que c'est peut-être même l'excuse pour aller les voir, leur parler, tu vois.
Soyons clairs. J'achetais du Royal Wear. Tu vois? Ouais. J'achetais en tant que consommateur Royal Wear. Je vais voir Sully Céphile pour lui demander de la pub dans mon fanzine. Et il me paye pour faire la pub d'un produit que je porte.
Ouais.
Donc en fait, moi, à ce moment-là, je suis à New York. Ouais. Je suis à Los Angeles. Je suis le roi du monde.
Ouais.
Je vais à Starco, enfin, Justco à l'époque, qui est un magasin qui est à Enghien. Enghien qui est à quelques stations de bus d'Épinay. Et en fait, ce magasin, j'y traînais. Mmh. Pour voir les nouveautés, pour voir les flyers, pour parler avec des gens. C'était un QG. Et au fur et à mesure, je me connecte avec Mickaël, qui est le créateur du magasin. Et je lui parle de mon fanzine. Et il me dit, ouais, je vais te prendre un peu de pub dans le fanzine. Et en fait, mais tu vois, c'est incroyable. Moi, Next Music, c'est la première maison de disques où j'ai été. Tu vois, et j'allais récupérer des CD. Il me donnait des CD à chroniquer. Il me donnait des CD. Mais quand on te donne un CD alors que tu fais un fanzine et que t'as 18 ans, c'est un cadeau, en fait. C'est une motivation, tu vois, extraordinaire.
Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle, toi, aujourd'hui, tu donnes aussi de ton temps, comme là, par exemple?
Oui, c'est parce que j'ai toujours dit, c'est super simple. La décision d'une personne peut changer ta vie. Vraiment, parce que moi, ça a changé ma vie. Si Bustaflex n'était pas descendu ce jour-là, vraiment, si il était pas descendu, s'il m'avait dit non, pas s'il avait pas été là, ouais. Parce que s'il avait pas été là, je serais revenu tous les jours.
Ok.
Mais s'il m'avait dit non, écoute, tu m'intéresses pas, j'ai pas que ça à faire, casse-toi de là, tu vois, j'ai pris des steps d'agressivité ouais. En fonction d'eux, tu vois. Mais s'il m'avait dit ça, en réalité, j'aurais peut-être pu me dire, bon, bah, en fait, quand c'est pour interviewer les mecs du quartier, j'y arrive, mais dès que je touche à quelqu'un du vrai business, d'une star, j'y arrive pas. Donc, en fait, j'y arriverai pas. Donc, j'aurais abandonné.
Ok.
Vraiment, tu vois. Et donc, peut-être que je me serais dit ça. Je me serais dit, bah, si Bustaflex de ma ville, il veut pas, c'est même pas la peine d'aller voir NTM, c'est même pas la peine d'aller voir tous ceux que j'ai rencontrés après, c'est même pas la peine d'aller voir Fab, c'est même pas la peine d'aller voir la Funky Family, c'est même pas la peine d'aller voir d'autres gens, parce que le mec de chez moi veut pas que je l'interview. Donc, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Le game, c'est pas pour moi. Il m'a dit oui. Et à partir du moment où il m'a dit oui, dans ma tête, il était signé chez Cool Chain, il était signé chez Warner, il était signé chez Frama People. Pour moi, j'avais plus aucune limite. Parce que lui m'avait dit OK. Donc, quand j'ai été montré mon fanzine avec Bustaflex en couverture à d'autres personnes plus connues, bah en fait, OK, bah Busta t'a validé, il est au top. Bah, vas-y, OK, on fait l'interview.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, et si lui m'avait dit non, donc voilà. Donc maintenant, j'essaie vraiment, tu vois, de répondre.
Ouais.
La preuve en est, hein. Tu m'as envoyé un mail, on s'est croisé, on est là aujourd'hui.
Ouais.
Tu vois, rien de plus que ça.
C'est ça.
Parce que c'est super important de rendre, tu vois, de rendre. Parce qu'en fait, on est dans une, et en plus de ça, je pense que ceux qui rendent pas, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas notre culture. Parce que on va zapper tout le côté sympathique de la démarche pour vraiment rentrer dans la partie business. Ça va trop vite aujourd'hui pour, dans notre culture spécifiquement, dans les cultures, j'aime pas ce terme là, mais dans les cultures urbaines, on va dire, voilà, bref, j'aime pas ce terme là, mais t'as compris l'idée. Ça va trop vite pour squeezer quelqu'un. Peut-être que demain, tu seras chez Quotidien, chez France Inter, chez Skyrock, tu vois, à faire la même chose que ce que tu fais là aujourd'hui. Et si je te zappe aujourd'hui, bah tu me zapperas demain, en fait.
Aussi, ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, ça va. Moi, j'ai vu trop de gens zapper des petits lorsqu'on était petits, qui aujourd'hui en fait sont à la tête d'entreprises dont ils ont besoin.
Ouais.
Donc même si tu zappes le côté amical et sympathique de la démarche, il y a aussi le côté business qui est que quand tu bosses dans le rap et dans tout ce qui concerne le hip-hop. Mais
c'est réel.
Ça va trop vite pour squeezer des gens, parce que 10 ans plus tard, et ça va vite 10 ans, mais 5 ans plus tard, le gars que t'as zappé, combien de rappeurs aujourd'hui étaient inconnus à 5 ans? Imaginons quelqu'un qui a zappé Damso il y a, allez quoi, on va dire, il y a 7 ou 5 ans. À l'époque de, tu vois, c'est pas si loin que ça, hein, Damso, quand tu regardes bien.
C'était frais.
Tu l'as zappé à ce moment-là, ben aujourd'hui, voilà.
Je suis content que tu parles de ça parce que il y a le fait de zapper et il y a un autre facteur qui est un peu nuancé. C'est pas forcément zapper, mais c'est le fait de négliger. Moi, des fois, je me sens négligé par rapport à ce que je fais, tu vois. Quand je contacte des personnes, etc., ils me disent, ouais, on verra plus tard, ou, bon, après, on a tous des plannings chargés, mais des fois, ils disent juste oui pour te faire plaisir et puis après, ils te calculent plus, etc. Et pour moi, c'est la même chose. C'est, ok, il faut savoir faire la part des choses, mais peut-être faire aussi attention à la façon dont tu t'adresses à quelqu'un, parce que même si tu restes poli et tout, parfois dans la posture, ça se voit que tu négliges les gens.
Mmh. Je suis d'accord.
Et c'est hyper important aussi de le souligner pour moi, tu vois.
Je suis d'accord.
Super. Ça m'amène à une autre question. T'as plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui.
Incroyable.
C'est, tu vois, mais en plus, tu vois, t'as un peu comme Soprano ou Nelly, on a l'impression que tu vieillis pas.
C'est cool, merci beaucoup. Merci.
T'en prie. Mais j'imagine que t'as eu des... Tu t'es mangé des claques, forcément. Mm-hmm. Avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure comme entreprise et tout, on a cité Fanzine parce que c'était l'élément déclencheur, c'était l'étrier, mm-hmm. Le pied à l'étrier. Mais sur tout ce que t'as fait depuis ces 20 dernières années, quelles sont les choses qui t'ont fait douter?
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que tu sais, tu doutes et tu te manges des claques lorsque tu ne construis pas.
Ok.
C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois une nouvelle génération d'entrepreneurs qui construisent leurs projets par le biais de levées de fonds, par exemple.
Ouais.
Alors moi, je suis pas contre la levée de fonds. N'hésitez pas, si vous voulez me donner de l'argent, à me donner de l'argent. Il y a aucun souci par rapport à ça. Mais en fait, dans toutes les structures que j'ai pu monter, tout ce que j'ai pu créer, tout ce que j'ai pu faire ou co-réaliser, je l'ai toujours fait crescendo.
Okay.
J'ai toujours fait en apprenant les rouages et les process.
Okay.
J'ai toujours pris le temps de le faire.
Donc, tu as toujours mis la main à la pâte en premier.
Exactement. Et même quand, par exemple, dans les nouvelles structures que je monte, je ne suis pas le spécialiste de l'activité. Un exemple, donc Qd, c'est mon associé Qd qui maîtrise l'aspect danse. Tu vois, moi, je connais les danseurs, mais c'est vraiment elle qui est spécialiste de ça. Bah moi, ma partie, en l'occurrence, gérer la structure, ça fait 10 ans que je suis seul en tête d'au maximum, ça fait 20 ans que j'entreprends. Donc aujourd'hui, je connais les process de la gestion d'une société. Et donc, en fait, j'ai rarement eu de doute ou j'ai rarement eu de claque parce que je suis toujours parti de zéro, voire même de moins 10, tu vois, avec de là d'où on vient. Donc en fait, j'ai toujours découvert beaucoup plus de choses que d'avoir vraiment pris des claques. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien.
Quand tu prends des claques, c'est quand tu n'étudies pas et que tu tombes de haut.
Ouais.
Mais comme moi, je fais que monter les barreaux de l'échelle. Donc en fait, je tombe pas puisque je me sécurise.
Ok, donc en fait, ce que je comprends, c'est effectivement, t'es pas dans l'attente de quelque chose, mais t'es plus dans l'observation. Je vais tester ça, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et est-ce qu'il y a pas ce côté aussi où finalement, tu prends pas les choses personnellement?
Ah si, par contre, tout est ultra personnel.
Ok.
Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas compris la question, mais tout est ultra personnel dans ce que je fais.
Dans le sens où, tu vois, tu te dis j'ai pas pu signer ce contrat, ou telle personne m'a mis un vent, m'a ghosté ou quoi que ce soit, ou que c'est aux raisons. Tu te dis c'est le process, c'est comme ça, et c'est pas parce que c'est moi, Alexis, en tant que personne.
En fait, par exemple, pour te prendre quelque chose de très concret dans le fait de rater ou pas quelque chose, on va prendre la partie événementielle quand j'ai pu faire des concerts et des soirées. Comment dire, personne ne nous a produit des soirées. Personne, et autant d'un point de vue clair, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait pu une structure, une grosse structure d'événementiel qui aurait pu vouloir bosser avec nous, ou le côté obscur de la rue qui aurait pu produire des choses. Non, on a toujours fait les choses nous-mêmes. Donc en fait, quand on a commencé Hip Hop Love Soul, par exemple, qui est la plus grosse soirée hip-hop qui a lieu sur Paris, on a commencé la scène Bastille. La scène Bastille qui est devenue Badaboum maintenant, et en fait on était en coprod avec la salle. Donc la salle nous fournissait toute la partie logistique et nous on devait faire venir les gens et les DJ. Donc même s'il y avait eu zéro personne dans la salle à la première édition, en fait on a appris le process. Alors il y a eu beaucoup de monde, ça a très bien marché dès le départ. Et après on a fait 2 ans tous les mois à la scène Bastille.
Okay.
On est resté au même endroit pendant 2 ans tous les mois pour justement faire découvrir le process, faire découvrir, apprendre comment on faisait une soirée, voir les petites galères qu'il y avait. Mais comme on apprenait, en fait, on anticipait. Et quand on est passé après dans des plus grandes salles comme l'Élysée-Montmartre, comme le Bataclan, etc., qu'on a produit aussi nous-mêmes, bah au final, on savait l'argent que ça coûtait, on savait combien coûtait un DJ,
ouais.
On savait à quelle heure arrivaient les gens, on savait plein de choses qu'en fait d'autres, ceux qui justement doutent ou tombent de haut ou se mangent des claques, ne savent pas et découvrent sur le tas parce que les portes ont été ouvertes pour eux plus facilement,
ouais.
Et donc ils tombent de plus haut. Mais quand tu sors de 2 ans où t'as produit ta soirée tout seul et où en fait t'as charbonné sur tout, où tu sais à quelle date il faut contacter la FNAC pour les préventes, faire le flyer, appeler les radios, etc., etc., bah quand en fait tu te retrouves devant, face à un plus gros défi, même si tu vas faire des erreurs, toutes les petites erreurs que t'aurais pu faire qui auraient gâché ton projet, tu les as déjà fait.
Ouais.
Parce que t'as appris.
Bien sûr. Et c'est super intéressant parce que déjà t'as la partie test and learn.
Mmh.
Et t'as la deuxième partie qui est la discipline, parce que exactement. Pendant 2 ans, tous les mois, faire une soirée, déjà, il faut que la coproduction, le partenariat avec qui vous bossez soit en confiance.
C'est ça.
Et surtout, il faut toujours avoir une équipe de confiance aussi autour de soi, parce que
c'est ça.
Tu peux pas faire les choses tout seul. Et il y a une autre chose que je voulais dire, c'est, je trouve de plus en plus paradoxal par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux.
Mmh.
Il faut pas avoir peur de commencer petit en réalité.
Ah oui, non, mais ça, les réseaux, je suis quelqu'un qui a vécu grâce aux réseaux, qui a gagné de l'argent grâce aux réseaux, qui a fait des événements, qui a fait plein de choses grâce aux réseaux sociaux. Merci les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ont quand même bousillé toute une génération et continuent de la bousiller dans le sens où, moi, je l'ai toujours dit, si j'avais montré sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas à l'époque, mais si ça existait, si j'avais montré sur les réseaux sociaux ce qu'était le premier numéro du fanzine d'Au Maximum,
ouais.
Mais c'était n'importe quoi. C'était un truc en noir et blanc, agrafé à la main, photocopié, avec plein de fautes, des photos qui étaient prises au Kodak, qui étaient développées, scannées, remises. Ça a été mis en page sous Word. Tu vois, j'avais pas de Photoshop, j'avais pas de InDesign, et enfin chez moi en tout cas il n'y avait pas ça, tu vois, donc on avait ça sous Word, etc. Si j'avais montré ça au monde entier sur les réseaux sociaux, j'aurais eu 0 like, j'aurais eu 5 commentaires me disant mais c'est tout pourri ton truc, et j'aurais arrêté là. Et c'est là le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pourquoi montrer au monde entier quelque chose qui est encore en process. Et les gens, en fait, c'est normal qu'ils se prennent des retours négatifs par rapport à quelque chose qui est encore en process, parce que tu n'es pas encore prêt.
Ouais.
Tu n'es pas encore prêt. Aujourd'hui, la moindre personne qui va apprendre à danser va prendre en fait son téléphone, va le mettre dans sa chambre et va montrer ses pas de danse. Sauf que t'es naze.
Ouais.
Mais t'es naze, pas parce que t'es naze et parce que je te juge, juste parce que tu commences.
Ouais.
Et n'importe quel chef pâtissier, quand il a fait sa première recette, eh ben c'était pas bon, parce qu'il faut de l'entraînement. Dans le bouquin que je suis en train de lire, dont je te parle, donc Too Sweener, il faut 10 000 heures. Ils expliquent ça. Il faut 10 000 heures pour apprendre à maîtriser un process. Et aujourd'hui, au bout d'une heure, on est déjà sur les réseaux en train de montrer ce qu'on sait faire. Et c'est ça le problème.
Ouais.
Le problème, il est là.
L'exigence, ouais,
voilà. C'est qu'avant, en fait, qu'Au Maximum soit connu, eh ben, je l'ai mis d'abord dans mon quartier. Et puis après, j'ai été le montrer un peu à d'autres gens. Et puis après, je suis descendu à Marseille pour faire les Marseillais. Tu vois, pour faire la Funky Family, pour faire tout ça, etc. Et puis après, tu vois, mais au fur et à mesure. Mais si j'avais tout de suite montré au monde entier ce que je faisais, ben en fait je me serais tellement pris de reproches que j'aurais abandonné. Et ça, je suis sûr qu'on est passé à côté de tellement de talents dans cette génération à cause de ça, que c'est super dommage. Tu chantes, tu vas te montrer en story en train de chanter, tes potes vont te dire ouais mais en fait t'es naze, alors que peut-être que t'étais la prochaine Beyoncé.
Ouais. Et en plus, ça pardonne pas. Quand tu vois Twitter, par exemple, rien que Twitter, lui tout seul, c'est...
Tu comprends ce que je veux dire? Mais la Beyoncé, pour parler vraiment du top, du méga top, la Beyoncé qu'on connaît aujourd'hui, même son père l'explique, on voit des vidéos, combien d'heures dans le salon avec les Destiny's Child avant de devenir les Destiny's Child? C'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. C'est combien de temps tu dois t'entraîner avant de devenir quelqu'un. Et même pas de devenir bon, hein, juste de maîtriser ce que tu peux faire. Voilà.
Et... ce qui est le plus fou, c'est qu'on, même par exemple dans la culture japonaise, dans la nourriture, t'as des maîtres qui sont spécialistes dans la cuisson du riz et ils ont plus de 20 ans d'expérience.
Voilà.
On parle de riz là, tu vois.
Et combien de plats de riz ils ont fait cramer.
Ouais.
Sauf que ça ils le montrent pas. Et c'est ça mon problème moi avec les réseaux, c'est pourquoi toujours tout montrer. C'est dommage.
Et ben ça fait une bonne transition avec un événement qui s'est passé récemment. On parlera du tien juste après. Uh-huh. Mais pour moi, c'est important de parler des flammes.
Oui.
Je trouve que les gens ont été très très durs avec eux.
Je trouve aussi.
Ils oublient que c'est une première. Et j'ai eu beaucoup de critiques, vu de l'extérieur et tout. T'en penses quoi, toi ?
Moi, je l'ai dit personnellement aux organisateurs. Mmh. En l'occurrence, j'ai parlé avec notamment avec Tom et Johan de Yard. Mmh. Et en fait, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir vécu les premiers essais. Okay. C'est-à-dire que il y a eu Trace qui avait fait une cérémonie. Il y a eu aussi quelque chose qui s'appelait l'année du hip-hop, mm-hmm. qui avait fait sa cérémonie. On sait de moi j'ai vécu la soirée aux Victoires de la musique lorsque, si je me trompe pas, désolé si je fais une erreur, mais lorsqu'il y avait Stomy, mm-hmm. Arsenic, IAM, NTM et Mano qui étaient nommés dans la première récompense pour un album rap. Et j'ai vécu, en fait, le fait que Mano ait gagné.
Mano, ouais, je m'en souviens.
Et en fait, aujourd'hui, j'ai que du positif, ouais. à renvoyer aux flammes et que des félicitations parce qu'on vient de là. On vient de cérémonies qui n'ont pas eu de deuxième édition. Mmh. Donc, félicitations à ceux qui ont essayé de le faire. Encore une fois, ça revient à ce que je disais à l'instant. Il faut toujours essayer, il faut toujours y aller. Mmh. Mais eux, j'espère, en tout cas, c'est sûr, en tout cas, c'est parti pour qu'il y ait une deuxième édition. C'est-à-dire que la première a été bien réalisée. Et surtout, je pense que les personnes, et là, j'assume ce que je vais dire, je pense que les personnes qui ont critiqué les flammes sont des enfants gâtés du rap. Mmh. Parce que moi, j'ai connu une époque où il a fallu aller expliquer aux salles, oui, on va faire une soirée qui s'appelle Hip Hop Love Soul, mais par contre, ça va bien se passer. Oui, il y aura des Noirs. Oui, il y aura des Arabes. Oui, il y aura des gens de banlieue. Mais par contre, ça va bien se passer. Tu vois, on en était là, en fait.
Ouais.
Et aujourd'hui, Tom, Johan, Ahmad, Bouscapé, Yard m'envoient une invitation pour faire une cérémonie au théâtre du Châtelet où ils me disent, Alexis, viens en tenue de gala. Il y aura tout le rap français. J'arrive là-bas. Je ne vois que des collaborateurs. Je ne vois que des sourires. Ça, je leur ai dit aussi. Ouais. Et j'ai dit sur les réseaux aussi. Je ne vois que des sourires. Et on a connu une époque du rap français où, nous, on a fait partie de cette animosité ambiante où on pouvait pas rassembler NTM, IAM et la clique du secteur A dans la même salle. Tu vois ou pas ce que je veux dire?
Ouais.
On a connu ça. Là, j'arrive dans une cérémonie où tout le monde est beau. À Châtelet.
Ouais.
Tu vois, pour moi, c'est ça.
Symbolique aussi.
Symbolique, tu vois, la symbolique. À Châtelet, tout le monde est beau, tout le monde sourit. La cérémonie, une cérémonie qui est diffusée en télé se passe très bien. Parce que moi, j'ai déjà fait 1 milliard d'émissions de télé. Les couacs qu'il y a eu durant la cérémonie, tu les as dans toutes les émissions de télé.
Bien sûr, bien sûr.
Dans toutes les émissions de télé, t'as, je sais pas comment s'appelle ce poste, mais le gars ou la fille avec le casque, avec le micro,
ouais.
qui arrête pas de crier partout.
Le régisseur, je crois.
Le régisseur, ouais. parce que un tel est en retard, parce qu'un tel est pas maquillé. Ça, ouais. ça arrive dans toutes les émissions de télé, du plus petit studio jusqu'à la Star Academy, tu vois ou pas ce que je veux dire. Et que les gars aient réussi à faire ça, mais je suis désolé, mais moi, je ne vois que du positif là-dedans.
Et on voit aussi, par exemple, Fadili Camara, hein, c'est la première fois qu'elle fait ça.
Mais pire que ça, animer une cérémonie, tout le monde se casse les dents.
Ouais.
Tout le monde, ouais. des Césars aux Oscars, à, comment il s'appelle, à Chris Rock qui se mange une baffe.
Ouais.
À, tu vois ce que je veux dire? On animer une cérémonie, il y a des gens qui refusent de le faire parce que tout le monde sait que c'est
ouais.
casse-gueule.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait partie même du rôle de l'animateur. Ok, ah, il a accepté lui. Ah, cette année, ça va être lui.
Ouais,
tu vois, dans toutes les cérémonies du monde. Moi, j'ai fait 2 fois les BET Awards à Los Angeles. Je suis désolé, mais ce qu'ils ont fait là, aux flammes, c'était extraordinaire. Les tableaux. Voir, quand tu connais le rap, écoute-moi bien. Là, je vais parler sérieusement. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est né en 82 et qui a vu le rap arriver en France. Quand tu connais le rap, vraiment, quand t'as débuté, c'est pas un message pour les jeunes, mais quand t'as débuté dernièrement, quand ça fait 5 ans que t'écoutes du rap sur Spotify et que tu critiques les flammes, et ben au final, moi je vais te dire un truc. Quand tu vois Mac Taylor de Tandem faire le morceau 93 hardcore à la télé, terminé.
Ouais.
On a gagné.
Ouais.
À la télé, dans un événement produit par Bouscapé. Bouscapé, quelque chose qui a été inventé au fin fond du 91. Attention, parce que tu vois, les gens prennent pas ça en compte. Pas le 93, 92 qui était collé, 95 qui était collé à Paris. Où on prenait le train, en 2 minutes, on était à Paris. Le 91, déjà, avant de critiquer les flammes, va dans le 91, dans les années 90-2000, avec Fif et Hamad, monte Bouscapé, amène Bouscapé au niveau où est Bouscapé aujourd'hui,
ouais.
Et après, tu peux te critiquer les flammes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, les gens se rendent pas compte, comme ils connaissent pas l'histoire, les gens ne se rendent pas compte de là où d'où on vient,
ouais,
en fait.
Travail.
Tu vois, moi, je croisais Fif et Hamad dans les conférences de presse, dans les interviews à Nouvelle Donne, etc. Je les croisais, en fait, en interview. Mmh. Moi, je voyais Fif avec sa caméra dans les studios en train de filmer tout ce qui se passait à une époque où personne ne savait si on allait gagner notre vie par rapport à ça.
Mmh.
Aujourd'hui, Bouscapé produit un événement à Châtelet. Mais respect, les gars. Moi, j'ai que du respect pour eux. Du début à la fin. Parce que je sais d'où on vient.
Merci pour ta réponse. Voilà. Je suis totalement d'accord. J'ai rien d'autre à dire. T'as fait un événement très récemment, à Châtelet d'ailleurs. Le festival urbain composé de 100% d'artistes caribéens à
oui,
la place hip-hop.
Ok. J'ai tellement de trucs que je vois pas de quoi je parle. Excuse-moi.
Est-ce que je me suis trompé de personne? Non, non, non.
L'oxymore on stage.
C'est ça.
Voilà.
Pourquoi c'est important pour toi de faire ça?
Bah, ça en revient à ce que je te disais au départ. C'est-à-dire que moi, pendant jusqu'à une vingtaine d'années, j'ai été totalement déconnecté de ma culture caribéenne. Parce que rejet simple d'un jeune de banlieue qui a grandi avec plein de cultures différentes et qui en fait a voulu plutôt mettre en avant sa culture de banlieusard que sa culture naturelle ou par descendance par rapport à ses parents. Et il s'avère que on a à l'époque des événements, mon cousin, donc Cyril, qui lui pour le coup a grandi aux Antilles, nous a rejoint, Didier et moi, mon associé à l'époque de Make It Clap, à l'époque des événements, pour développer la partie caribéenne. Et de là est partie une reconnexion totale avec ma culture originale, la Guadeloupe, Marie Galante. On a bossé avec des artistes comme Admiralty, comme Izzy Kenenga, comme Kalash, des artistes aussi vraiment majeurs chez nous, comme Akio, comme La Perfecta, qui sont des groupes qui étaient déjà là avant que je naisse et qui sont vraiment des le panthéon de la culture caribéenne. Et d'ailleurs, on a eu la chance de produire le concert d'Akio à l'Olympia, ce qui reste l'un de mes meilleurs souvenirs au niveau de l'événementiel. Et donc aujourd'hui, je considère il y a une nouvelle vague qui arrive aujourd'hui de rappeurs de rappeurs et de d'acteurs de la musique urbaine caribéenne, si on doit classer les choses par des noms comme ça. Et en fait, il s'avère que moi, dernièrement, je suis devenu associé d'une agence qui s'appelle l'agence 88, qui a ses bureaux en Guadeloupe. Et donc, je considère que mon rôle par rapport à toute cette culture-là, c'est de faire le lien avec entre la nouvelle génération d'acteurs de la musique et de la culture caribéenne et les acteurs, on va dire, dans l'hexagone. Et donc, moi, je bosse depuis longtemps avec La Place. J'ai visité La Place hip-hop avant même que ça soit construit. J'avais un casque et tout, des bottes. J'ai vraiment été vraiment à la base du projet. Tu vois, j'étais vraiment lié à tout ça. Et donc, je leur ai dit, vous faites un festival. Faut que je vous présente mes associés aux Antilles qui font énormément de choses pour la culture là-bas, des podcasts, du son, des événements. il faut qu'on parle tous ensemble. Ouais. Parce qu'il y a un festival qui va avoir lieu. On peut monter un plateau. Vous pouvez accueillir le plateau. Travaillons ensemble. Et c'est ce que j'ai mis en place.
Encore une fois, c'est super important, entre guillemets, d'assumer ça parce que c'est la nature. Enfin, c'est ta nature, en tout cas, pour cette culture-là. Et on le voit aussi dans Nouvelle École. Nouvelle École, ils sont exportés aussi dans aux îles et tout. Et ça, c'est... J'ai l'impression qu'il y a, un vrai truc qui se crée. C'est de toute façon... Alors là, je parle vraiment à titre personnel pour le coup. C'est... On a l'impression que même si on est français, même si on a des origines, on a encore du mal à... Enfin, on a encore du mal. Les gens ont encore du mal à comprendre qu'on est français, même si on a des origines. Et... Ouais. Et nous, de notre côté, il faut plus avoir peur d'assumer nos origines, nos cultures, notre religion, quoi que ce soit, tu vois. Et ça, je vois qu'il y a un vrai déblocage qui se fait autour de ça. Ouais. Et tant mieux.
Fab disait quelque chose qui m'a marqué dans un morceau. Il a dit, ta couleur, tu peux l'enlever de ta tête, tu n'enlèves pas de ta face.
Ouais. Ah, exactement.
Donc, j'ai enlevé ma couleur et ma culture de ma tête pendant un certain temps. Et pas parce que je reniais le truc, hein, juste parce qu'en fait j'étais dans autre chose.
Ouais.
Et aujourd'hui vraiment, je tu vois, par exemple avec ma fille aujourd'hui, elle a 8 ans à l'heure où on se parle, et elle a passé tous ses étés aux Antilles. Elle a déjà à 8 ans passé plus de temps aux Antilles que moi, quand j'y allais tous les 3 ans, ouais. Tu vois, avant de pouvoir y aller tout seul avec mes propres deniers, elle a déjà passé plus de temps aux Antilles que moi. Et ça, pour moi, c'est une victoire.
Ouais.
C'est une victoire. Elle est totalement à l'aise quand elle va en Guadeloupe, tu vois, quand on est à Marie-Galante chez mes parents. Ouais. Elle est totalement à l'aise avec ça. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est magnifique.
C'est une belle victoire.
Et c'est une reconnexion totale avec ma culture. Et en plus de ça, si je peux travailler avec ça, gagner de l'argent avec ça, faire des collaborations entre mes partenaires aux Antilles et mes partenaires ici, qu'est-ce que tu veux demander de plus, tu vois. C'est magnifique. Moi, quand j'étais au concert et que je voyais les gars sur scène tout défoncés, que le concert était plein, parce que il y a l'aspect culturel qui est très bien, mais encore une fois, faut être honnête, il y a l'aspect culturel et il y a l'aspect business. Et quand je peux lier les deux, parce qu'on a fait, on a créé une valeur avec ça, on a vendu des tickets et on a rempli une salle financièrement avec ça, c'est magnifique.
Ouais.
Tu vois, c'était pas... En fait, la place ne nous a pas fait... l'aumône ou... don, tu vois, de... Allez, bon, les gars, vous êtes tout pourris, mais on vous fait le don de la salle pendant une heure, venez chanter vos trucs, et puis après, vous rentrez chez vous. Non, j'ai mis les gens en connexion. On a fait du business ensemble autour de la culture et tout s'est bien passé. La place était contente, le public était content, mes associés étaient contents, les artistes étaient contents et c'était un moment magnifique.
Bravo, bravo.
Merci.
On arrive bientôt à la fin, mais c'est important de te poser cette question par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure avant d'enregistrer, la décision que tu as prise par rapport au maximum.
Ouais.
Le changement que ça a opéré et tout. Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
À quel niveau précisément?
Bah, le fait d'avoir changé d'équipe,
d'accord,
etc.
En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai toujours une vision, moi, qui était liée... En fait, je suis quelqu'un, comme tu l'as compris, qui respecte beaucoup les anciens et qui respecte beaucoup les gens qui ont réalisé des choses avant lui, en France ou aux États-Unis, beaucoup. Et j'ai toujours vu, moi, les gens, en fait, notamment aux États-Unis, évoluer. Et pour faire le parallèle, j'ai souvent vu les gens aux États-Unis évoluer et les gens en France stagner puis mourir.
Ok.
Et quand c'est les gens, c'est plutôt les structures, tu vois.
Ouais.
Et je me dis, au maximum, en fait, au final, ça a toujours évolué en fonction de moi. C'est-à-dire que au départ, bah, ça a été un fanzine, puis ça a été l'événementiel, parce que j'avais 20 en 30 ans et que j'étais ultra connecté à plein de gens, je sortais, enfin tu vois, quand t'as 20 ou 30 ans, tu connais tout le monde, en fait, tu connais la terre entière, tu vois. Puis après, en fait, c'est devenu un peu plus pro avec l'agence de communication. Et en fait, aujourd'hui que j'ai 40 ans, concrètement, à titre personnel, même si on le fait encore via mes associés, mais à titre personnel, c'est pas moi qui vais aller expliquer à un rappeur ou à un chanteur, une rappeuse ou une chanteuse qui a 15, 20 ans, comment aller sur TikTok et ouais. se faire connaître, tu vois pas ce que je veux dire. Et en gros, mon rôle aujourd'hui, c'est de monter la structure qui va permettre aux jeunes artistes et aux jeunes collaborateurs de ma société de faire des choses dans les meilleures conditions possibles. Mais ce n'est plus à moi de le faire parce que je ne suis plus dans cette génération-là, tu vois. Donc aujourd'hui, le dernier changement d'au maximum, en réalité, c'est de devenir un groupe et dans ce groupe, de réunir les synergies entre les différentes structures. Donc aujourd'hui, il y a Statistics qui est basé pour le moment à Strasbourg et qui fait du marketing digital, donc qui push les clips, pour dire ça vulgairement, sur YouTube, etc. Il y a Qd qui est une agence de gestion de danseurs, autant au niveau de la prod, au niveau du booking, au niveau de l'administratif, parce qu'il y avait un gros manque à ce niveau-là. Mmh. Les danseurs étaient vraiment laissés à leur compte, se faisaient des factures avec des trucs d'entrepreneurs alors qu'ils ont des cachets à récupérer. Enfin voilà, on a vraiment géré tout ça. Et il y a le campus digital qui forme nos futurs collaborateurs à tous les métiers de la communication et du digital. Il y a SFTB, la nouvelle structure, qui a récupéré toute l'activité promotion et communication d'au maximum et d'environnement, et donc qui gère tout ça pour les artistes et qui est ultra connecté aujourd'hui à tous ces artistes-là. Il y a l'agence 88, qui est donc aux Antilles et qui gère toute la partie afro-caribéenne de nos activités en termes de communication, de digital, de visuel, etc. Et tout ce groupe, au final, forme une synergie. Tous mes associés ont un peu moins de 30 ans et ils sont tous associés soit majoritaires, soit à part égale avec moi. Mmh. Et en fait, moi, mon métier, c'est de les guider aujourd'hui, mais c'est eux qui sont au charme. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu te renouvelles. Moi, j'ai vu trop d'anciens à moi rester sur leur base, ne pas nous faire la passe. Et c'est pas un reproche que je leur fais. Ils apprenaient aussi à entreprendre. C'est facile, 20 ans plus tard, de dire, moi, je fais mieux que les gens qui ont fait moins, tu vois. Ils apprenaient aussi à entreprendre. Et c'est surtout, c'était les premiers à avoir ce genre de société hip-hop, entre guillemets. Donc, mais l'erreur qui a été faite dans le passé, c'est qu'ils nous ont pas fait la passe à nous.
Ouais.
À la jeune génération. Et donc, en fait, quand nous, on a voulu créer des choses, on l'a créé en opposition par rapport à eux. Mmh. Et c'était dommage.
Ouais.
Alors, moi, aujourd'hui, je préfère aller voir, aller me déplacer et aller proposer à des plus jeunes de créer quelque chose ensemble, quitte à ce qu'ils partent après faire autre chose, plutôt que de rester sur mes acquis et de me dire que parce que j'ai eu des disques de platine et des disques d'or les 10 dernières années, ça va continuer. Non, ça va pas continuer. Parce que le temps passe et parce qu'aujourd'hui, les gens qui vendent de la musique et qui vivent de la musique n'ont pas mon rapport à la musique. Et donc, je préfère faire en sorte que, vu que ce sont les jeunes qui dirigent, ce sont les jeunes qui motivent, ce sont les jeunes qui prennent les bonnes décisions, parce que c'est eux le futur, que tu le veuilles ou non, autant les accompagner.
Il faut, je trouve une grosse humilité pour dire ça. Et on voit que t'es pas dans l'ego quand tu fais tout ça.
Non.
Et tu vois, t'as toujours gardé l'essence de ce que t'avais depuis que t'es tout jeune.
Ouais, et puis, en fait, tu vois, j'essaie à chaque fois de faire la balance par rapport au bon côté altruiste que ça peut être. Il y a un côté d'ego parce qu'en fait, si tu veux continuer à être dans la partie, tu peux pas, dans les cultures, comme j'ai dit au départ, tu peux pas faire sans la future génération.
Ouais.
Et si des mecs comme vraiment toute proportion gardée me concernant, mais si des mecs comme Jay-Z, comme Diddy, comme Maverick Carter dans le sport avec LeBron James, etc., sont encore dans le game, c'est parce qu'ils s'ouvrent à la jeune génération. Si Jay-Z était encore à Brooklyn en train de rapper ses trucs d'il y a 20 ans, il serait pas aussi pertinent qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui il est pertinent, c'est grâce à Rihanna, c'est grâce à des gens qui ont 20 ans de moins, 30 ans de moins que lui, c'est grâce à tout ce qu'il a pu engendrer avec d'autres personnes. Et si t'es pas dans cette dynamique-là, en réalité, au maximum, ne serait qu'un souvenir. Au maximum, ne peut pas être 20 ans plus tard la même chose que ce que ça a été 20 ans plus tôt.
Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est un groupe et voilà, et c'est très bien comme ça.
C'est le plus important.
Exactement.
J'ai envie de te parler d'un artiste norvégien. Il s'appelle Dolk Lundgren. Bon, je le prononce pas forcément.
Comme tu t'en doutes, je ne le connais pas.
Oui, évidemment. Et ben, lui, il a fait une folie que je trouve super intéressante. Uh-huh. En fait, il a prêté sa Lamborghini à un musée et il a demandé aux visiteurs de la rayer.
Okay.
Donc, de ne laisser aucune trace. Elle était noire à la base. aucune trace noire sur le véhicule, donc l'arrêt au maximum. Le truc a pris tellement d'ampleur qu'ils ont dû l'arrêter au bout de quelques jours, même si elle est restée exposée à peu près 2 ans.
D'accord.
Et en fait, il a voulu montrer une chose hyper intéressante, c'est de dire que chaque action qu'on laisse, ben, ça laisse une trace. Uh-huh. Et que le fait d'accumuler ces actions finiront par la détruire. Et je vais te montrer la voiture à quoi elle ressemble.
Ok, d'accord.
Tu vois ?
Ok.
Et donc, la question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est quelle trace tu veux laisser dans la société ?
La trace que je veux laisser dans la société, c'est assez particulier. Parce que ça évolue en fonction des années. Mais clairement, aujourd'hui, je ne vais pas dire avec l'âge, mais en tout cas avec l'expérience, vraiment, et ça vient aussi de tout ce que je suis en train de faire par rapport au bouquin, vraiment, c'est la transmission, mais pas la transmission dans le sens basique du terme.
Okay.
La trace que je veux laisser dans la société, c'est justement de laisser une trace.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai, notamment par rapport au cours que je donne à la Sorbonne Nouvelle, je suis en contact régulier avec la nouvelle génération. Et le problème de cette génération qu'elle va avoir dans le futur, c'est justement de ne pas avoir assez de physique.
C'est-à-dire ?
De choses physiques.
Ah, ok.
C'est-à-dire que quand je vais chez mes parents, ben, j'ai des CD, j'ai des cassettes. J'ai des cassettes vidéo.
T'as des posters.
J'ai des posters. Ouais. J'ai tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, ça va être comment va être cette génération-là, tu vois, dans le futur.
Ouais, c'est vrai.
Avec ton meilleur souvenir musical quand c'est sur une plateforme de télé, de streaming, comment tu vas te souvenir de ce moment-là réellement? Et c'est pour ça justement que je suis revenu un peu au physique avec les bouquins. Parce que la transmission passe par là, je pense.
Ouais.
Moi, chez moi, j'ai des livres qui appartenaient à mes parents. Parce que, tu vois, ils ont laissé ça là. Là, maintenant, ils sont aux Antilles. Et tu vois, maintenant, chez moi, j'ai un livre, ceci. J'ai des disques de mon père. Tu vois, Youssoupha a fait une chanson là-dessus, tu vois.
Ouais.
J'ai des disques de mon père que je peux faire écouter à ma fille. Tu vois, c'est quelque chose de particulier. Et donc, la trace que je veux laisser... C'est ça, c'est que je me dis aujourd'hui, et ça c'est assez impressionnant, je me dis aujourd'hui que un jour, il y a un petit du 93 qui a tagué au maximum sur un mur.
Ouais.
Et quand je serai plus là, eh ben, il y aura obligatoirement, au vu du nombre de bouquins qu'on vend, obligatoirement des gens qui auront des bouquins au Max Books chez eux.
Et ça c'est beau.
Et ça, franchement, c'est quand je te le dis là même, je me rends compte de la portée du truc parce que c'est vraiment venu de ça. Au maximum, c'est un graffiti d'un petit de 14-16 ans qui a envie d'exister, qui a envie de marquer sa trace dans le monde et qui a envie de et qui veut pas s'appeler tu vois d'un nom particulier, un nom simple. Non. Au maximum. Rien que ça, déjà, tu vois, ça te montre déjà la pression que je me mettais.
Ouais. Ouais,
tu vois, l'ambition. Et aujourd'hui, je me dis que, ben, en fait, je pense que c'est là où je me dis que moi, je suis pas dans la réussite. Parce que, comme je dis souvent, à chaque fois que t'as réussi quelque chose, si t'es vraiment quelqu'un, si t'es vraiment un bosseur, si t'es vraiment un boss, tu réussis jamais. Parce qu'en fait, quand tu réussis quelque chose, t'es déjà sur un nouveau défi.
Ouais, t'es en mode perfectionniste.
Donc, en fait, jamais tu m'entendras dire, ah ouais, ça y est, là, j'ai réussi. Ouais. Voilà. Et même quand, si demain, je gagne des millions, toi, etc. Ben, en fait, qu'est-ce que tu fais de tes millions à ce moment-là? Ouais. Est-ce que tu réussis à, comme Bill Gates ou comme d'autres, ou comme Warren Buffett, à créer quelque chose qui va inciter les gens à donner leurs milliards à d'autres gens? Tu vois, c'est ça, en fait, la vraie réussite, c'est toujours avoir un autre truc. Et aujourd'hui, je me dis, ben voilà, au moins ça, je l'ai fait. Ça, aujourd'hui, quand je serai plus là, ben, il y aura des gens qui auront chez eux, qui auront acheté quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, je repense à des gens qui m'envoient des messages en me parlant des bébés Hip Hop Love Soul. Parce qu'il y a des gens qui un jour sont sortis, ont décidé de me faire confiance en allant à un événement à moi, se sont rencontrés, ont matché et ont fait un enfant, quoi.
Incroyable.
C'est fou de se dire ça quand même. Ouais. Que tu fais partie de l'histoire d'une famille et cet enfant va donner d'autres enfants, etc. Tu vois, et sans cette soirée, ils se seraient peut-être jamais rencontrés. C'est quand même incroyable, tu vois. Et c'est ça, en fait. Moi, c'est ça la trace que je veux laisser. La trace que je veux laisser, c'est faire partie de la vie des gens.
Okay.
C'est pas une trace où les gens vont se dire oui, Alexis, le grand entrepreneur, a changé, tu vois, parce qu'il y aura toujours plus grand que toi. Et en plus, mes modèles, moi, sont tellement irrattrapables, tu vois. Quand tu suis Jay-Z, dernièrement, là, il a annoncé qu'il allait ouvrir un casino à New York. Enfin, tu sais, des trucs, voilà, tu vois. Tu sais que tu rattraperas pas
toujours
le gars.
Plus grand.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux laisser une trace dans la vie des gens. Et je pense avoir réussi à faire ça parfois, tu vois.
Voilà. Là, je trouve ça beaucoup plus symbolique, beaucoup plus beau que d'ouvrir un casino perso.
Ouais, ouais, exactement. On peut dire ça. Ouais.
Dernière question pour toi. Enigma Marron, si tu devais faire le bilan.
C'est marrant parce que j'ai bossé avec Enigma Marron.
Ah ouais.
J'ai travaillé avec eux et c'était d'ailleurs une super bonne expérience. Big up à eux.
Ouais.
Le bilan, ben sincèrement, le bilan, il est, et je dis ça en toute humilité, mais le bilan, il est ultra positif. Et en plus de ça, c'est marrant que tu me poses cette question-là maintenant parce que le bilan de cette année, il est ultra paradoxal parce qu'il y a eu plein de changements ultra négatifs dans la structure. Mais en même temps, ces changements ultra négatifs ont été portés par des super bonnes nouvelles. Donc le bilan, il peut paraître mitigé quand je regarde ça de manière basique, mais en réalité, il a ouvert tellement de portes sur du positif que non, le bilan, même de toutes ces années, il est que positif. Je sais pas quoi te dire de plus parce que sincèrement, s'il fallait le refaire exactement de la même manière, eh ben, je pense que c'est ça le bilan. S'il fallait le refaire exactement de la même manière, ce que j'ai fait les 20 ou 25 dernières années, eh ben, je signerais. Et je pense qu'à partir du moment où tu peux te dire ça, je pense que ton bilan, il est positif.
Je suis d'accord.
Vraiment. S'il fallait revivre les mêmes choses, tu vois, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai rencontré un ami, tu vois, déjà, c'est énorme. Ouais. Un ami qui est le parrain de ma fille, avec qui on a vécu plein de choses, avec qui on continue de vivre des choses. Et c'est énorme d'avoir déjà un ami de 20 ans dans ta vie, tu vois. Ouais. Quand t'en as 40, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est beaucoup dans ta vie, tu vois. Et donc, ouais, non, le bilan, il est extraordinaire.
Eh ben, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi qui es dans la com?
Alexis Onestas. C'est pas plus compliqué. Partout. Sur tous les réseaux, Alexis Onestas. Il y a pas de, tu vois,
de hashtag.
C'est des arrobas bizarres. J'ai mon nom, mon vrai prénom. Alexis Onestas. Et en plus de ça, beaucoup le disent, mais moi, je le fais vraiment. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas à m'envoyer des choses parce que je réponds. Je réponds pas tout de suite dans la foulée parce que j'ai plein de messages, mais je réponds tout le temps. La preuve en est, on est là aujourd'hui.
La preuve.
Et voilà.
Merci à toi.
Merci
un plaisir.
À toi. Merci beaucoup.
N'hésite pas à pousser, à liker, à partager. Tu connais, on fait tout seul. C'est la seule force qu'on peut avoir. Si t'aimes, vas-y, fonce. Ça y est, premier épisode terminé. Ce que je retiens, en 1, c'est ton entreprise qui s'adapte à toi et pas l'inverse. En 2, sois fier de qui tu es, de tes origines et de l'environnement où tu as grandi. En 3, quand tu sais ce que tu as à faire, priorise tes tâches et calcule pas le reste.